Oui, moi j'étais intéressée quand j'ai vu l'identité du client du colloque il y a quelques mois. Et puisqu'effectivement j'avais envie de réfléchir avec d'autres personnes sur cette approche critique du développement durable. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, comme je voulais le dire, enfin, ça dépend de mon part, est-ce qu'on va réaliser. Tu as proposé plusieurs entrées qui étaient possibles. Et c'est vrai que peut-être que pour arriver à aller plus loin dans l'analyse, il faut effectivement resserrer sur certaines choses. Moi, j'ai lu il y a quelques temps déjà les actes de colloque qui avaient eu lieu au Canada, au Québec, qui étaient sur des croissances ou développement durable tel futur pour la société. Et effectivement, j'ai lu les actes, enfin les textes avant même que le bouquin soit publié, parce qu'il a été publié en mars 2011, maintenant c'est le thème de croissance versus développement durable, débat pour la suite du monde. Hein. Et cet ouvrage, moi j'ai vu des analyses très, très pointues et très, très, très riches, très, très ciblées, et qui faisaient un ensemble finalement de critiques qui allaient un peu dans le même sens, parce qu'il y avait déjà une entrée très, très précise. Hein. Donc les chercheurs étaient vraiment invités à se positionner, donc certains, mais vraiment sur une question très, très précise. Et moi j'ai trouvé cet ouvrage, enfin en tout cas les textes, hyper riches. Et je ne savais pas qu'il y avait des gens qui avaient autant travaillé sur cette problématique-là. Et moi, je pense que pour pouvoir continuer à réfléchir, et pour qu'on arrive à avoir des objets, des questions comme ça, ben, c'est un peu ce que va proposer des alternances, enfin, en tout cas des boulots, mais très pointues et qui soient suffisamment évocateurs pour que les chercheurs puissent se saisir de mon question comme ça, pour qu'on arrive à aller plus loin.
Oui, j'ai deux, trois questions. La première est peut-être à Luca Patarlini qui nous dit que le développement durable a été trahi, qu'il n'a pas réalisé ses promesses, que le développement durable est une ruine du capitalisme, etc. Donc, une série de remarques critiques de ce type-là. Mais j'ai envie de vous poser tout de suite la question, finalement, il me semble qu'on n'en a peut-être pas suffisamment parlé, peut-être comme si ça allait de soi. Qu'est-ce qu'il entend par durabilité? Qu'est-ce qu'il entend par développement durable? Et qu'est-ce qu'il entend par vie durable? C'est des notions d'ailleurs qui sont elles-mêmes problématiques, hein, et qui font que cette thématique est elle-même extrêmement floue. Parce que les notions elles-mêmes, elles ne sont pas bien saisies. Hein, elles sont encore très volatiles, je dirais presque. Et Sylvie Lain, vous l'avez montré un peu son appareil. Hein. On s'est appelé une parole. La deuxième question, elle est pour toi, Jérôme. Je me sens qu'elle, bon, une pensée critique du développement durable, effectivement, à partir de la sociologie, à côté de cette critique du développement durable par la sociologie, on pourrait aussi faire une approche critique, mais de nature cette fois-ci plus épistémologique, hein, dans la tradition de François Scheur, c'est l'urbanisme durable. De sa prétendue scientificité, des valeurs idéologiques qui véhiculent, etc. Donc là, il me semble que là, on a sur le champ épistémologique même un questionnement qui peut être très fréquent sur le savoir, sur le prétendu savoir et le savoir-faire de la durabilité, hein, qui doit être interrogé. Cette fois-ci, d'un point de vue épistémologique, et là, on attend que les scientifiques, effectivement, aussi, y participent. Et à l'ensemble des binômes, alors que tu nous balances, effectivement, quand on voit, on a dit, effectivement, les nombreuses questions qu'il soulevait, on pourrait en ajouter un, qui pour moi, au moins, est central, hein, dont j'en parle un petit peu ce matin. C'est le binôme, je dirais, néolibéralisme et développement durable. Et là, il s'agit encore une fois d'un oxymore. C'est-à-dire que ce sont deux choses, quand on parle de développement durable, aujourd'hui, dans le contexte actuel, on sait bien que ça se heurte à des impasses, à des difficultés insurmontables. Hein, dont toutes les tentatives de récupération, d'instrumentation, etc. qu'on croissance verte, du urbanisme vert, qui est en fait le camouflage, je dirais, donc, du libéralisme par, par la durabilité, hein, en se verdissant. Et donc, c'est parce que finalement, les finalités du marché ne sont pas les mêmes que les finalités de la durabilité. Je crois que si on comprend ça, je crois qu'on peut commencer à faire distinguer les deux choses et à voir ensuite comment est-ce qu'elles peuvent être compatibles ou pas. À mon sens, bon, pour beaucoup de chercheurs et de tout, elles sont incompatibles. D'où l'importance de penser à notre modèle économique. D'où l'importance de penser à un autre type de modèle de croissance qui ne soit pas soutenable. Etc. C'est toute une série de questions que tu as également posées dans ce. Dans ce colloque. Voilà. Puis si nécessaire, je pourrais expliquer d'autres choses sur ce que l'on entend par cette incompatibilité.
Oui, peut-être un autre moyen de faire la revanche du Péterum, d'aborder la question, c'est de regarder les titres. Si on fait sociologie des approches critiques, si je critique le développement durable, je ne fais pas une sociologie des critiques. Je critique le développement durable, d'accord, on n'est pas au même niveau d'analyse. Pour faire une sociologie des approches critiques, il faudrait que je me sépare de mon sujet et que je dise comment se construit, pour quelles raisons, quel objectif, les critiques du développement durable. Quelles sont les finalités derrière cette critique. Donc faire une analyse, un peu, si vous voulez, à la Foucauldienne, il n'y a pas que ça. Ça, c'est une chose. Ça serait aussi poser la question, je pense, suivante, c'est-à-dire quelle est la réappropriation, l'utilisation d'une critique du développement durable par ceux qui financent une telle étude. Est-ce que en analysant le radical ou des méchants objecteurs de conscience ou des gens qui font du NIMBY et en disant pourquoi ils font du NIMBY, pourquoi ils font du NIMBY, les facteurs qui amènent, dans la sociologie traditionnelle, quoi, les facteurs expliquants. Est-ce que c'est pas un moyen détourné d'avoir des leviers pour gouvernementaliser tout ça? Donc on veut participer de manière très militante pour certains d'entre nous à un projet radical critique, que ce soit le refus d'une autoroute ou que ce soit un squat ou je ne sais pas pourquoi. Mais on publie un rapport, et le rapport est utilisé. Je vous rappelle que quand même au début des années 70 et 80, quand ont été financées les études sociologiques sur le NIMBY, infrastructure, TGV, etc., c'était bien parce que le ministère de l'Éducation voulait savoir comment marquer les opposants. Donc je ne vois pas encore, on a évolué en 30 ans là-dessus. On se pose toujours la question, mais il n'y a rien qui a changé. Donc pour répondre à la question, si on est ici pour faire la sociologie des approches critiques, est-ce que c'était notre rôle à nous en tant que présentateur de ce qu'on fait dans la vie en termes de recherche, et à vous, organisateurs, de faire une sociologie de tout ça, est-ce que vous espériez que nous allions vous faire une sociologie qui est critique, et ensuite vous dites, on fait un gros résumé de tout ça, et comme ça va être plus facile. Je ne sais pas ce que vous avez vu comme texte, mais il me semble que ce que j'ai entendu aujourd'hui, on parle de ce qu'on fait, il n'y a pas beaucoup qui font une sociologie de ce qu'on fait.
Je voudrais juste répondre. Je suis probablement mal exprimé du coup, parce que la très brève typologie que je mettais en place ici, c'était à l'horizon de cette question d'une sociologie des approches critiques, et en m'appuyant en particulier sur les travaux qu'il avait, pour ma part, aujourd'hui le fait avec plus de. De la manière la plus convaincante, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement décrit des processus où les gens critiquent des politiques qui sont labellisées de développement durable. Et donc du coup, c'est pas moi qui dis... et j'essaie de comprendre, et c'était ce que j'ai mis en avant au tout début, hein, c'est-à-dire bah, finalement s'il y a critique du développement durable, quelles sont ces choses, donc qu'est-ce qui peut indigner les gens Et après, comment ils durcissent, comment ils en font une critique, donc quels sont les appuis et comment ils pointent du doigt. Et effectivement, dans toutes ces opérations, des prises de la critique, de la justification de la critique, mais aussi des moteurs de la critique, on a besoin, les différentes théories sociologiques nous permettent d'explorer de manière différente. Juste pour répondre, si je disais voilà, la critique externe, j'avais entre autres le travail d'Hélène Régnier qui, dans une perspective néo-marxiste, va enquêter sur des politiques de transport qui sont labellisées développement durable dans la mesure où elles veulent réaliser effectivement un report modal vers le transport public par exemple et autres. Et elle montre en fait, elle chemine pour montrer deux choses, qu'à la fois de facto ils vont avoir des effets excluants parce que ça dessine le bon et le mauvais usager de la ville contemporaine. Donc ça va faire que, de facto, il y a des mauvais usagers, des usagers irresponsables. Donc il y a un effet de violence de cette politique de développement durable sur une certaine partie de la population. Et que non seulement il y a un effet de violence sur cette partie de la population, mais qu'en plus, et ça c'est peut-être ce qu'elle fait, j'espère que je la trahis pas, qui est celle du néolibéralisme, c'est qu'il y a des gens qui y gagnent. Qui était l'idée, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir, en particulier un pouvoir capitaliste, qui gagne à mettre en place cette politique de développement durable qui fait que la ville devient plus compétitive, gagnante, en excluant physiquement. Et donc là, c'est une manière de construire. J'ai une minute. Et l'autre que je disais dans mon critique à Dan, je m'appuyais sur le travail de Guyot cet après-midi, où lui montre que le développement durable, qu'on a mis en place des processus de certification. Pour des procédures de construction inscrites dans une tradition effectivement de durabilité. Mais que malgré tout, ce qui se passe, c'est que alors que la durabilité, en particulier en architecture, c'est le retour vers l'autoconstruction, l'attention au vernaculaire, la possibilité de l'innovation, un ensemble de choses qui étaient qui déformabilisaient en tout cas les traditions. De l'architecture classique, dans la certification, tout d'un coup, il y a des choix techniques qui vont petit à petit de nouveau bloquer. Et donc, de nouveau faire que ce qui était l'espoir de traduction dans le domaine de l'architecture, de la durabilité que lui a justement inscrite dans une tradition critique et de reprise aussi du vernaculaire dans l'architecture. Ben, dans ces processus de certification qui sont censés aider à accompagner des nouvelles formes d'architecture, on a quelque chose qui se perd. Et l'indicateur vient écraser quelque chose. Et donc là, on voit bien, j'ai décrit deux recherches qui chacune ont leur consistance et qui ont qui ont des points de focal et peut-être des théories de l'acteur et des pouvoirs différentes. Et donc c'était ça pour moi des sociologies, effectivement, des approches critiques du développement et la vie durable. Donc moi je faisais juste une description de ça.
Tu avais l'impression.
Ouais, pardon.
Une précision quand même sur la critique, parce que. Moi, je trouve que c'est un terme qui endosse beaucoup trop de choses différentes, en fait. Il y a effectivement la critique logique, ou la critique qu'on va trouver dans une controverse, c'est-à-dire argument contre argument, ou comme dans les jurys de thèse, vous savez, il faut toujours faire ce qu'on appelle un mouvement de concession, c'est-à-dire, certes, le candidat ne pouvait pas lire toute la bibliographie, etc., mais en fait, tout de même, il manque beaucoup de sources américaines. Donc, parce que vous ne pouvez pas démolir complètement les candidats, il faut toujours pouvoir dire à la fin, il a la thèse avec mention très honorable. Donc si vous démolissez complètement, la conclusion n'est pas cohérente. Donc il y a une critique qui est vraiment sous contrainte d'un raisonnement collectif, institué, après il y a des variations, etc. Il y a une critique qui relève de la contestation, de l'analyse des formes de protest. Il y a une énorme tradition aux États-Unis là-dessus, les travaux de Tarot, Tilly, etc. Donc les répertoires de protestation qui sont plus ou moins là aussi constitués, si on en appelle évidemment à l'exploitation, à la classe ouvrière, etc. Donc tout ça, les sociologies ont fourni des espaces de circulation aux acteurs. Je ne pense pas que ça serve plus les uns que les autres. Par contre, il peut y avoir des moments où c'est appropriable plus facilement, plus rapidement, par certains acteurs que d'autres, etc. Et il y a la plainte qui est la critique, l'accusation, qui est encore un autre régime. Et il me semble que si on ne distingue pas, si on a la critique comme une espèce d'équivalent de tout, c'est-à-dire de dénonciation, plainte, suspicion de, je sais pas, de falsification, de scandale, etc., on a, au bout d'un moment, on a réussi à créer un artefact, d'une certaine manière. Et donc, déjà, critique radicale, c'est mieux, parce que ça crée un mode. Et je pense qu'il faudrait tout le temps qu'il y ait quelque chose d'associé à. C'est une critique politique, une critique radicale, une critique régulatrice, une critique technique, scientifique, etc., etc. Parce que là, pour le coup, sinon, on a effectivement les approches critiques, c'est bien pluriel. Donc, bon, c'est vrai que le pluralisme du divers, hétérogène et multiple, et quand même, c'est incrusté dans les textes de sciences sociales depuis une vingtaine d'années, c'est impressionnant. Vous avez toujours une multiplicité d'eux, une hétérogénéité d'eux, une diversité d'eux. Enfin, on est vraiment dans la sociologie plurielle. Finalement, on est peut-être les seuls à rester pluriels maintenant. Mais enfin bon, et donc on voit bien que ce qui compte, c'est quand même de caractériser les modes qui sont activés, et là c'est sur les modes qu'il y a toujours une voie de sortie, c'est-à-dire qu'on peut toujours retourner ce qui est instrumentalisé par les uns, parce qu'on a laissé ouvert en fait la possibilité d'une pluralité de modes. Moi je prends toujours l'exemple du free jazz, quand le bebop est devenu un truc dînatoire, eh ben, les musiciens noirs américains ont changé complètement de mode. Et voilà. Et après, ben, le free jazz pour dîner, c'est déjà plus difficile, etc., etc. Donc on peut toujours manger en écoutant du free jazz, mais enfin bon, ça devient indigeste. Vous voyez. Donc il y a toujours la rébellion, la contestation qui se construit sur les bords quand une critique s'est routinisée ou est devenue un peu systématique. Voilà. Donc c'est bien les modes qui comptent. Et là, on retrouve des vieux philosophes. Leibniz et compagnie.
Ouais, moi, c'était pour comprendre que faire durer. Il me semble qu'il y a trois grandes réponses, en fait, à que faire durer. Il y a faire durer l'autorité. Qu'est-ce qu'il faut faire durer dans le développement durable ? Il y a une théorie qui dit qu'il faut faire durer l'autorité. C'est celle qui est du côté des solutions technologiques. Il y a des solutions technologiques à tout. Séquestration de carbone contre le changement climatique. Nanotechnologie contre l'usage excessif de matière, et ainsi de suite. Donc ça, c'est faire durer l'autorité. La deuxième réponse, c'est faire durer la paix. Donc c'est celle qui va négocier. Celle qui va négocier, son problème, c'est la violence. Elle n'aime pas la violence, elle veut éviter la violence. Donc son objectif en faisant durer la paix, c'est d'ouvrir la négociation. Donc c'est tout ce qui est participatif et ainsi de suite. Développement qualitatif. Et puis la troisième manière, la troisième définition du développement durable, c'est faire durer l'égalité. Et faire durer l'égalité, c'est celle qui est la plus tiers-mondiste de toutes, évidemment, c'est celle qui va dire ben, il faut de la décroissance, il faut que les pays riches diminuent, parce que sinon il n'y aura pas de place pour les pays en développement, et donc il y aura une partie des gens qui se retrouveront, qui sont déjà dans des conditions indignes, et qui vont non seulement y rester, mais en plus, ça va s'aggraver. Donc il me semble qu'il y a trois grandes théories, alors vous pouvez prendre le bouquin Franck-Dominique Vivien, on retrouve les trois sous différentes formes dans tout un tas de bouquins. Donc il y a au moins trois manières, il y a trois manières aujourd'hui de comprendre le développement durable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire durer dans les différentes théories qu'on rencontre.
Et est-ce que vous voyez est-ce que c'est synonyme de soutenabilité? Parce que le terme exact anglais, c'est sustainable.
Alors ça,
c'est pas la même chose, parce qu'il y a une confusion en France, en français, entre durée et durabilité.
Oui. Je pense qu'effectivement, ça inclut les trois la variable écologique, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que pour maintenir l'autorité, je caricature un peu, mais on n'a pas de temps. Hein.
Donc,
pour maintenir l'autorité, il faut contrôler les ressources. C'est ça, l'objectif principal, c'est contrôler les ressources, s'adapter face au changement climatique. Pas question de reculer sur l'industrie, parce que c'est l'industrie qui nous permet de maintenir l'autorité. Sur la deuxième, maintenir la paix, ça va être aussi négocier avec, on pourrait dire, pour faire un peu de latourisme, négocier avec les non-humains, les intégrer dans la négociation. Donc ça, c'est... Et puis la troisième, ça va être c'est plutôt le biocentrisme, c'est-à-dire qu'on va intégrer pleinement, en leur reconnaissant une certaine dignité, les autres êtres vivants et éventuellement les écosystèmes.
Non, mais là, ce que vous définissez, c'est les finalités du marché néolibéral. Quand on finit le développement durable, tout le travail de la durabilité, tout le travail de l'écologie, de l'écologie territoriale, toutes ces problématiques.
Ah bon, on peut la décliner en fonction des territoires.
Mais là, je suis entièrement d'accord avec vous.
Si on prend un territoire, ça va être, on va retrouver les mêmes trois, et c'est, tout simplement, c'est sur un territoire. On prend un pays, ça va être les mêmes trois.
Quelle est la définition de la durabilité du développement durable posée par le rapport Bonpland?
Le rapport Bonpland entretient un coût artistique à ce sujet.
Là, il n'y a pas de coût.
C'est sa principale vertu. Non, il y a 22 définitions dans le rapport Bonpland, différentes, de la durabilité, qui vont d'un pôle à l'autre. Celle qui a été choisie est celle qui est la plus floue. Évidemment, puisque c'est un problème diplomatique. Donc chacun peut voir ce qu'il a envie de voir dedans. C'est sa principale vertu. Donc je ne pense pas que le rapport Bonpland donne une définition claire du développement durable. Par contre, on peut dire que dans les négociations internationales et dans la pratique autour du développement durable, celle qui domine, c'est plutôt la première, c'est-à-dire c'est plutôt l'autorité, c'est plutôt qui est-ce qui va réussir à contrôler les ressources.
Pas du tout ça.
C'est un développement qui permet de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.
Mais peut-être qu'à la limite, il vaut mieux que vous en discutiez autour d'un verre, vu l'heure.
Oui, ça va peut-être faire une bilatérale.
Voilà, exactement. On va entamer les rapports bilatéraux, il est là.
Oui, alors moi aussi je vais faire mes catégories. Je vais être très court. Alors, il y a des colloques qui sont des bilans de recherche, et puis il y a des colloques qui sont des amorces de recherche. On se situe plutôt dans le deuxième cas de figure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il me semblait, quand je me suis mis en tête de faire ce truc-là, que la ville, avec toutes les imprécisions que soulignait Francis, la ville, l'objet urbain, l'écoquartier, etc., etc., sont des objets qui permettent d'éprouver, justement, ce concept de durabilité. Et la deuxième chose, c'est bien, effectivement, une sociologie des approches critiques, au pluriel, pas de la critique, mais ça se situe bien dans ce passage d'une sociologie critique à une sociologie de la critique, où le travail qu'on fait en commun aujourd'hui s'ancre sur des terrains concrets qu'apporte chacun qu'on a exposé. Et en même temps, le travail qu'on fait tous en ce moment, pendant ces deux jours, c'est justement d'arriver à tirer les appuis que peut avoir la critique sur ces terrains, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, etc. etc. Voilà. Donc, c'est un travail en cours, et bon, ça a des avantages, des inconvénients, mais ça me semblait plus fertile et plus heuristique. Bien, donc demain matin, pas que c'est trop tard, parce que demain matin ça commence à 9h15, les comptes commencent à 9h15, hein, donc ça veut dire qu'à 9h il y a l'accueil des participants, et donc on embraye direct. Voilà, bonne nuit.